franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia et bonjour à tous. Alice, mon amour, veux-tu m'épouser ? Ce n'est pas moi qui pose la question, je ne connais pas d'Alice, non. L'homme qui fait ainsi sa demande en mariage porte le prénom de Nance, c'est Jean en provençal. Et c'est dans Libération qu'il s'adresse ainsi à sa belle. Une page entière de doux messages ce matin, à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin que certains amoureux célébreront demain. Hervé, j'ai adoré ces 10 ans avec toi encore, écrit ainsi Lucie. Quel bonheur d'avoir divorcé, s'exclame une autre ou bien un autre. Ce message n'est pas signé. Quel bonheur, car je vais enfin pouvoir te courtiser comme tu le mérites et comme ton empressement m'a empêché de le faire la première fois. Des mots d'amour donc. Et cette question en troisième colonne, Alice, veux-tu m'épouser ? Je ne connais pas Alice, mais j'espère qu'elle va répondre oui à Nance. Et comme ça, Nance sera heureux. Et Nance, du coup, répondra oui à la question que pose à sa une ce matin Le Havre Libre. Êtes-vous heureux en amour ? Si l'on en croit l'enquête dont se fait l'écho, la Dépêche du Midi, la réponse est d'ailleurs majoritairement positive. Les Français croient toujours en l'amour, titre Le Quotidien. S'appuyant donc sur ce sondage de l'Institut BVA, plus des 3/4 des personnes interrogées se déclarent satisfaites par leur vie sentimentale. Alice, veux-tu m'épouser ? Êtes-vous heureux en amour ? Des questions essentielles ce matin dans les journaux. D'ailleurs, la presse, ce samedi, recèle foultitude d'interrogations.
Oui, par exemple, dans le Figaro Économie, faut-il craindre un krach sur les places boursières ?
Presque 14% de baisse sur l'indice CAC 40 depuis le début de l'année, moins 23% à Milan et moins 17% à Madrid et Francfort. Mais pas de quoi s'affoler, nous rassure Le Quotidien. D'après les experts, les marchés sont plus confrontés à une panique financière qu'à une véritable dégradation de l'économie. Autre question, dans le Parisien, le 15 de France peut-il prendre une grosse claque suite du tournoi des Six Nations France-Irlande cet après-midi ? Et après une victoire poussive la semaine dernière face à l'Italie, la jeune équipe de Guy Noves va affronter une équipe qu'elle n'a pas battue depuis près de 5 ans. Selon Libération, c'est le match d'aujourd'hui qui devrait enfin lever le voile sur le réel niveau des Bleus, comme sur la portée de la méthode du nouveau sélectionneur, lequel continue de miser sur la jeunesse, pari osé, mais excitant, de l'avis de l'équipe qui titre « Bête noire et cœur vert ». La bête noire, c'est l'Irlande. Et les cœurs verts, ce sont donc ceux des joueurs tricolores. Espérons que ce ne soit pas des cœurs d'artichaut.
Et puis, il y a aussi cette question dans la croix. Maman, c'est qui Dieu ?
Une question posée par Manon, 5 ans et demi, à sa mère qui venait de lancer un très classique. « Oh, merci mon Dieu, mais maman, c'est qui Dieu ?» Et dès lors, que répondre à ça ? Manon attend une réponse simple, mais parler de Dieu, c'est tout sauf simple, explique le journal catholique, lequel propose cependant quelques phrases bien inspirées. Dieu, c'est un mystère. Et les petits aiment les mystères. Et on peut donc leur dire que Dieu est invisible, qu'on ne le voit pas, qu'on ne l'entend pas, mais qu'autour de nous, il y a plein d'autres choses qui existent et que pourtant on ne voit pas. Le vent, la chaleur, l'amitié, l'amour. On peut donc leur dire que Dieu, c'est pareil, une présence invisible mais qu'on sent au fond de soi ou quand on est avec les autres. Des conseils pour ceux qui y croient et qui veulent que leurs enfants y croient aussi. Pas simple de répondre à cette question, c'est qui Dieu ? Autour de nous, plein de choses qui existent et qu'on ne voit pas. Et plein de personnes aussi qu'on a du mal à regarder, les réfugiés notamment. Et en premier lieu, ceux qui s'entassent dans les bidonvilles du nord de la France. L'État va raser la moitié de la jungle de Calais, titre très sobrement Le Monde. Décision annoncée hier par la préfète du Pas-de-Calais. Et elle donne une semaine aux migrants qui campent dans la partie sud du bidonville pour quitter les yeux. Entre 800 et 1000 personnes sont concernées.
D'où cette question à la une de la Voix du Nord, où iront-ils après ?
Tentative de réponse d'Aïdé Sabéran dans Libération. Iront-ils dans le centre d'accueil provisoire ouvert mi-janvier ? Et qui n'est pour l'heure qu'à moitié plein. Il compte 1500 places dans des conteneurs blancs chauffés, mais on ne peut pas y cuisiner. Et on y entre par un système de reconnaissance de la paume de la main. Or, de nombreux exilés craignent qu'on repère leurs empreintes. Deuxième solution, les centres d'accueil et d'orientation présents un peu partout en France pour y demander l'asile, mais dans ce cas-là, pour eux, c'est renoncer à l'Angleterre. Or, c'est précisément pour l'Angleterre qu'ils supportent cette existence de boue, de froid et de danger. Et il faut aussi braver les camions, les trains, les passeurs et autres milices racistes. De plus en plus de migrants sont en effet victimes d'agressions. Jeudi, 7 hommes ont été placés en garde à vue après avoir été pris en flagrant délit de ratonnade près de Dunkerque. Du reste, note ma consoeur, l'annonce de la préfète ressemble à une étape de plus dans le rétropédalage. Cette jungle, née il y a presque un an sur impulsion de l'État, va fermer pour les mêmes raisons que celles qui avaient conduit à sa création. L'État rétropédale sur la jungle de Calais. Et il s'en mêle les pinceaux sur le dossier très polémique du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le président de la République a annoncé l'organisation d'un référendum local. Mais là encore, foule de questions.
Un référendum pour qui ? Demande ainsi le Télégramme.
Le quotidien breton qui précise que cette consultation suscite des doutes à la fois chez les élus et chez les juristes. Va-t-on vraiment voter ? S'interroge pour sa part le courrier de l'Ouest, soulignant que ce vote n'est peut-être pas légal. Du reste, le président de la région refuse de l'organiser, comme le rappelle Presse Océan, qui évoque les premiers couacs sur ce référendum local. Quant à la Charente libre, elle parle d'un imbroglio. Imbroglio qui vient du verbe latin imbrogliare, traduction embrouillée. Hier, Manuel Valls, en déplacement à Munich, a tenté de désembrouiller le dossier en expliquant que le projet serait abandonné en cas de vote négatif et que ce vote concernerait les habitants plutôt de Loire-Atlantique. Tout est dans le plutôt. Bref, il juge que le vote concerne un département, mais la question n'est pas tranchée, sachant que c'est une consultation qui, a-t-il dit, est organisée non pas pour abandonner le projet, mais au contraire pour le légitimer, soit. Mais au sein du gouvernement, le projet a ses adversaires, notamment la nouvelle ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, elle l'a dit hier sur l'antenne de France Inter, où elle a d'ailleurs dit aussi son opposition à la réforme constitutionnelle instituant la déchéance de nationalité. Gouvernement, la zizanie est de retour, commente ce matin le Figaro à sa une, premiers accros, et une machine à couac qui s'est déjà remise en route. Et le journal de cité, la guéguerre entre Laurent Fabius et Ségolène Royal sur la présidence de la COP21, la mésentente persistante entre Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault, ou bien encore la rétrogradation d'Emmanuel Macron, passé dans l'ordre protocolaire du gouvernement de la 12e à la 14e place, derrière Emmanuel Cosse et Jean-Michel Baillet. Une petite humiliation susceptible de nourrir le feuilleton de sa rivalité avec le Premier ministre. Les parlementaires de la gauche du PS sont également dépités et dénoncent un gouvernement de bidouillage. Commentaire d'un ministre, nous voilà repartis dans le bordel général. Dans le même temps, Le Parisien nous livre quelques-uns des secrets de ce remaniement, où l'on apprend notamment que Marisol Touraine aurait pu hériter du ministère de la Défense si Ségolène Royal avait hérité du Quai d'Orsay, mais non, ce sont des hommes. On apprend également que plusieurs personnalités de la culture et du journalisme ont été évoquées pour le ministère de la culture, les journalistes Laura Adler, Anne Sinclair ou encore Nathalie Yanetta, actuelle conseillère de l'Élysée. Aucun commentaire des intéressés. Une autre femme s'exprime en revanche sur le site de l'Obs.
Oui, il s'agit de Jacqueline Sauvage.
Jacqueline Sauvage, condamnée pour le meurtre de son mari violent et qui a bénéficié d'une grâce présidentielle partielle, elle raconte pour la première fois son calvaire et son combat. Et sa surprise quand elle a appris à la télévision, en prison, cette grâce partielle. Qu'avez-vous ressenti ? Lui demande le journal. J'ai été surprise et émue de voir mes filles à la télévision. J'étais tellement contente, j'ai sauté de joie. Et j'ai parlé à la fenêtre de ma cellule. Autour de moi, en détention, certains ont partagé ma joie. Mais mes premières pensées ont été vers mes filles. Et le courage qu'elles ont eu pour m'épauler, je leur serai reconnaissante toute ma vie. À votre avis, lui demande le journal, pourquoi êtes-vous devenu le symbole que vous êtes aujourd'hui ? Je suis devenu un symbole sans le vouloir. Moi, je n'ai jamais rien demandé de ma vie. Je n'ai jamais été aidé par quiconque. Et puis, il y a eu ce jour-là, le jour du meurtre. C'est la cocotte minute qui a explosé. Ensuite, elle dit qu'elle souhaite une évolution des mœurs et surtout des mentalités et des lois pour que les femmes battues et leurs familles en détresse soient reconnues pour ce qu'elles sont, à savoir des victimes. La fin d'une époque à la une de l'Ardennais. Les deux dernières cabines téléphoniques de Charleville seront démontées d'ici la fin de l'année prochaine. C'est une conséquence de la loi Macron pour la croissance de l'égalité des chances économiques. La fin d'une époque également à la une de la Provence. Dans la nuit du 4 au 5 avril, la télévision basculera en haute définition. Or, certains postes ne seront plus compatibles sans un décodeur adapté. Les facteurs vont aider les personnes âgées à rétablir leur branchement. Question, les facteurs livreraient-ils un jour des pizzas ? En tout cas, ils font de plus en plus de choses, les facteurs. Et puis, on termine avec la une du Parisien, qui revient sur le palmarès des victoires de la musique. Photo, de celui qui a été élu meilleur artiste masculin de l'année lors de la soirée hier, Vianney. Et lui aussi, s'il a remporté ce prix, c'est grâce à une question.
Il ne peut pas répondre, il n'a jamais répondu à la question en fait.
Alice, veux-tu m'épouser ?
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.